Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Onzième émission de Feuilles Vives aujourd'hui, on continue notre automne agricole et alimentaire. Après la fête de l'agriculture paysanne et les locavores de la ruche qui dit oui, Feuilles Vives s'intéresse à l'espace test des prés d'amont. Du terrain, du matériel, un lycée horticole pour l'appui technique, une couveuse d'entreprise pour la commercialisation, tout pour que les porteurs de projets se testent en vue d'une installation prochaine. Un maillon de la relation ville-campagne puisqu'il permet d'ouvrir davantage la profession de maraîcher à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Brigitte Macrez est animatrice de l'espace test agricole des prés d'amont.
On a fait le constat que nous formions des futurs maraîchers, mais en fait très peu s'installent. Nous on s'arrête avec un niveau bac et il n'y a pas chez un jeune bachelier d'à peine 18 ans ou peu souvent l'énergie, l'envie ou la représentation qu'on pourrait devenir maraîcher. Alors que des jeunes ou des moins jeunes caressent à l'occasion d'une idée de reconversion professionnelle ce souhait-là. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un chaînon manquant entre la formation et l'installation. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'espace test. Alors les bénéficiaires vont se voir mettre à disposition 1 hectare de plein champ et environ 1000 m² couverts. On estime qu'une personne seule peut, lorsqu'elle est bien organisée, faire face à 1 hectare. Au-delà, il faut être plus mécanisé ou bien il faut faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Dans la phase couveuse, même si le modèle l'accepte ou le rend possible, la main-d'œuvre n'est pas considérée au départ comme... c'est pas prévu pour être fait avec des saisonniers. C'est vraiment un dispositif où le bénéficiaire va caler son projet d'installation. L'idée, c'est que pendant la phase de couveuse, les bénéficiaires du dispositif acquièrent des gestes de production qui soient des gestes de professionnels, des gestes de maraîchers. Ils doivent, dans la plupart des cas, passer d'une représentation de « je jardine en faisant comme mon grand-père faisait » ou « comme je vois dans des jardins familiaux » pour prendre une autre dimension qui est celle de la production maraîchère. Il n'y a pas de porteur de projet type, chacun vient vraiment se confronter à sa propre réalité. Donc pour certains, ça a été de mettre en adéquation la représentation de leur métier avec la réalité. D'autres sont venus vérifier leur capacité physique à générer un revenu de par leur activité de maraîchage. Et puis certains vont avoir plutôt travaillé le débouché commercial. C'est vraiment chaque porteur de projet dans sa réalité à l'instant T. Donc nous ici, on a la chance d'avoir du foncier et de la surface disponible. On fait du maraîchage bio au lycée horticole depuis la fin des années 90. Donc on a de la compétence, on a du savoir-faire. Et donc on a du foncier, on a du matériel qui était un peu sous-utilisé, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour donner l'opportunité à d'autres que des lycéens de se mettre sur cet acte de production. Et donc avec Val Biocentre et puis le partenariat avec la couveuse, on a imaginé ce dispositif où quelqu'un qui a un projet d'installation en maraîchage bio mais ne se sent pas encore tout à fait prêt pour des raisons qui lui sont propres et qui vont être différentes et qui vont vraiment être le reflet du projet de chacun, décide de prendre du temps pour mieux caler, mieux dimensionner son projet. Il peut passer ici, faire de 1 à 3 ans et se sentir ainsi plus prêt, mieux préparé pour affronter les banquiers ou une commission de professionnels pour obtenir du foncier, etc. etc. Ce qui est important d'entendre, c'est que c'est le projet du bénéficiaire. Ça n'est pas notre projet à nous qu'on va essayer d'imposer. C'est pas notre modèle, notre vérité. Et ce sont les candidats qui vont décider de leur plan de culture, qui vont faire leurs erreurs. C'est l'apprentissage par l'erreur. Après, on est vraiment sur des personnes qui sont à quelques années ou à quelques mois de leur installation. Ils doivent déjà savoir produire. Ils ne sont pas prêts pour être chef d'entreprise demain, mais en tout cas, ils sont déjà presque maraîchers dans leur tête. Les gestes professionnels de base sont acquis. Ils savent semer, ils ont encore des questions existentielles à résoudre, mais l'essentiel du cœur de métier est maîtrisé. Il n'y a pas des cours de maraîchage biologique spécifiques, individuels pour ces bénéficiaires. Ils sont en train de tester leur projet presque en grandeur nature. Ils s'appuient sur le numéro de SIRET de Mature Entreprise, donc on est avant la création, mais ce sont des véritables chefs d'exploitation en gestation.
Ouais. En gestation.
Cette grosse voix grave que l'on entend en arrière-plan, c'est celle d'Henri Régent, le porteur de projet actuellement installé auprès d'Amont.
Suite à des événements professionnels, j'ai choisi de faire une reconversion. Et donc, dans ma recherche de foncier, ma route a croisé le lycée horticole. Et donc, on m'a proposé de me poser un petit peu ici et pour pouvoir tester mes capacités à devenir maraîcher et aussi pour me permettre de développer mon réseau commercial. Donc depuis 2013, il m'a été loué un hectare, un petit peu plus d'un hectare de terrain, de foncier. Et donc je mène mon petit bout de chemin, ma petite guerre. Les premières années ont été quand même assez compliquées. Donc j'avais quand même une expérience, on va dire, en jardinage. Et de passer de jardinier à maraîcher, la marche est quand même assez haute. Donc il y a beaucoup de techniques à mettre en place, respecter les plannings, les saisons. Plein de choses à apprendre, à réapprendre. Et au démarrage, pas mal de petites difficultés. Des choses que je pensais acquises et simples à faire, sur des surfaces un petit peu plus grandes, ça prend une autre dimension. Donc l'espace test, sur la première année, a bien joué son rôle. J'ai un BTS dans l'automatisme, donc que j'ai passé en 97. Voilà, donc j'ai mené mon petit bout de chemin professionnel. En 2012, j'étais responsable technique dans une entreprise de multiservices. J'avais une dizaine de salariés sous ma responsabilité. Donc la crise étant passée par là, il fallait dégraisser les salariés. Donc moi je me suis mis en tête de liste parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, on peut dire aussi qu'il y a la crise de la quarantaine peut-être qui est passée par là. Mais pas seulement, mais voilà, une envie de faire quelque chose, une envie de faire autre chose et une envie de laisser peut-être une trace, mais une belle trace sur cette planète, puisqu'on n'est que de passage, et plus travailler dans pas un hobby, mais dans quelque chose. Une passion. Alors même si l'automatisme, le réseau, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été passionné par les différents chantiers que j'ai pu avoir à réaliser. Mais il me manquait quelque chose. Je pense que ce quelque chose qui me manquait, il est là, il est dans la nature. Et être plus proche de la terre et surtout plus proche de, du quotidien, voilà, de ce qu'on consomme au quotidien. Et voilà, j'ai eu une réflexion sur moi-même en me disant, est-ce que où je vais avec tous les chantiers que j'ai pu accumuler, est-ce que je me sentais bien, est-ce que je me sentais parce qu'on, je parlais, on passait d'un chantier à un autre, d'un client à un autre, alors que là effectivement on va passer d'une saison à une autre, mais les saisons ne se ressemblent pas, les difficultés ne se ressemblent pas, on a un contact avec la nature. Ce que je dis souvent aux élèves lorsqu'ils viennent travailler en TP, eh ben que on est dans le monde du vivant. Donc la fleur, la plante, il y a une croissance, il y a un cheminement, et en respectant ce cheminement-là, on arrivera à des cultures qui sont belles et intéressantes pour notre consommation. Donc là, juste à côté, donc c'est encore une serre de concombre. Donc le concombre, alors c'est vrai que la première année on m'avait déconseillé fortement de faire du concombre, mais je pense que j'ai un petit côté têtu, et donc j'ai toujours fait du concombre, et ça me tenait à cœur de continuer à en faire, et belle réussite, ça dès la première année, voilà, belle réussite de concombre. La conduite, voilà, c'est quand même un produit qui est quand même assez fragile, qu'il faut soigner en permanence, qu'il faut entretenir, le faire, le guider pour qu'il puisse grimper sur les fils, mettre les crochets, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, mais lorsqu'on passe le temps nécessaire, le résultat est plutôt pas mal. Donc habituellement, les années précédentes, je faisais deux rangs de concombre, à peu près 250 pieds de concombre. Et ben là, cette année, on est sur 500 pieds de concombre. Et je pense que j'aurais pu encore en faire un petit peu plus. Et après, c'est le réseau de distribution, parce que on a tendance aussi, alors voilà, je suis sur ma quatrième année avec quand même un recul des années précédentes, donc avec une expérience quand même assez posée. Mais voilà, faut pas non plus s'emballer, parce que produire c'est bien, mais derrière il faut pouvoir aussi revendre la production, et pas qu'elle termine sur le tac compost, parce que on n'a pas prévu, le réseau de distribution n'est pas assez grand pour pouvoir avaler la production. Donc on va continuer un petit peu plus loin.
Et pour la distribution, Harry a tout prévu. La majorité de sa production part en semi-gros par l'intermédiaire du groupement de maraîchers bio Val Bio Centre. Le reste des légumes est vendu directement aux consommateurs sur son lieu de travail, en passant par les comités d'entreprise. Une idée qu'il a eue lorsqu'il travaillait à Paris, un camion venait distribuer des légumes au pied des immeubles de la Défense et vidait sa cargaison en un temps record à la sortie des bureaux.
Alors moi, je commercialise sur deux canaux. Donc le premier c'est de la vente demi-gros, donc avec Val Bio Centre. Donc Val Bio Centre qui est une association de 38 producteurs. On fait des paniers pour la région parisienne, pour les Parisiens. Donc on a à peu près en 3500 voire 4000 paniers qui partent toutes les semaines à Paris. Donc chaque producteur a un planning de production sur différentes cultures. Et donc ça, c'est le premier canal. Et ça me permet d'assurer une partie du chiffre d'affaires. Ça a son inconvénient, puisque c'est du demi-gros, donc c'est vendu au prix du demi-gros. Donc avec Valbio, c'est plutôt soft, plutôt sympa. On sait, en fonction de la planification qui nous a été attribuée, on sait d'avance le chiffre d'affaires théorique, parce qu'on n'est pas à l'abri d'intempéries, de vols, de ravageurs, etc. Mais on a un chiffre d'affaires théorique, et généralement, à 95%, on arrive à, à maintenir ce chiffre d'affaires.
C'est de la visibilité, mais une marge moins importante.
Exactement. Donc, visibilité très importante aussi pour les banquiers. Voilà, donc on sait où on va. Moi, aujourd'hui, Valbiocentre, ça représente à peu près 40-45% de mon chiffre d'affaires. Donc, le deuxième canal, il est sur de la vente directe. Donc, sur de la vente directe aux particuliers. Et donc, sous forme de panier. Et j'avais mon idée qui était déjà bien en tête, la vente de panier au pied du bureau. Et donc, c'est ce que j'ai développé aujourd'hui. Donc, j'ai mon petit site internet. Les gens passent leurs commandes, donc via le site ou par SMS. Et j'ai des jours de livraison. Donc, je travaille avec les CE. Et donc, ça me permet d'aller livrer directement dans les entreprises. Et donc, les gens, le midi, reçoivent leur panier directement au pied du bureau. Avec Valbiocentre, c'est facile puisqu'on récolte, on met en caisse. Et il suffit juste de repeser les caisses et de mettre le bon poids qui va bien parce qu'on livre en caisse. Donc, c'est assez simple à faire. Par contre, les paniers, là, on a un petit peu plus de difficultés puisque pas du cas par cas, mais quasiment pour les paniers perso. Mais c'est beaucoup de manipulation de légumes. C'est beaucoup par exemple, sur un panier de type 2, donc famille 2 adultes, 2 enfants, on va retrouver 8 légumes différents dans le panier. Des légumes qui sont pesés de 1 kg à 200 grammes. Donc, repeser chaque panier, chaque type de légumes, et après les remettre en sac. Donc, c'est de la logistique, c'est de l'organisation. Mais c'est génial. C'est... ça sort de l'ordinaire, ça sort du boulot du champ. C'est intellectuellement on est sur autre chose. Et alors, je veux pas dire ça donne une bouffée d'air frais parce que on est dans le jus. Il y a du stress parce que les paniers sont faits au dernier moment. Donc les tournées sont programmées à des heures fixes. Donc mais ouais, ça met de l'adrénaline et c'est génial. Ouais, ça change des heures de désherbage à quatre pattes dans le champ, et c'est une autre facette du métier que je voudrais pour rien au monde m'enlever, parce que ça m'apporte tout à fait autre chose, et même au niveau de la distribution, au niveau des clients, il y a un contact qui se fait avec le client, il y a un dialogue qui se met en place, donc les gens sont très très curieux de savoir comment ça se passe, les différentes difficultés qu'il va y avoir, et qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine. Voilà, plein de questions qui vous fait penser que vous ne travaillez pas pour rien. Et donc là, de ce côté-ci, je suis en train de préparer mes tunnels pour l'hiver. Donc où on va avoir de la blette, de l'épinard, de la jeune pousse, de la salade. Il y aura aussi de la carotte et du navet. Voilà, préparer les cultures d'hiver. Parce que ça, voilà, c'est un métier où surtout lorsqu'on fait de la vente directe aux particuliers, on n'a pas de temps mort. Voilà, parce que le particulier mange tous les jours. Voilà, on consomme tous les jours. Donc si à un moment vous vous dites voilà, j'ai fait une belle saison des automne-été, moi l'hiver je vais me mettre au chaud, aux Antilles, lorsque vous allez revenir au printemps prochain, vous risquez de ne pas retrouver votre clientèle parce que les gens n'attendent pas forcément sur vous pour manger. Vous êtes là, vous faites des bons produits, ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus là, ils vont aller chercher à se nourrir ailleurs. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc on est sur dans ce métier de maraîcher en vente directe, pour fidéliser notre clientèle, on est obligé d'avoir des produits tout au long de l'année, et on peut guère se permettre d'avoir des temps morts ou dire aux clients excusez-moi, ce mois-ci, vous n'avez pas mangé de légumes parce que j'en ai pas, quoi. Donc, lorsque vous êtes jardinier, ben, lorsque vous avez 5 minutes, vous allez planter des poireaux, vous allez semer un peu de carottes, vous allez mettre un peu d'haricots par-ci par-là, et vous allez récolter quand vous avez le temps. Mais lorsque vous êtes maraîcher, c'est pas quand vous avez le temps, il faut que ce soit organisé. Il faut savoir que j'ai de la clientèle, à telle période, je vais mettre tel ou tel produit dans mes paniers. Donc pour que ces produits arrivent dans mes paniers, il va falloir qu'en amont, je les ai semés, que je les ai plantés, que je les ai désherbés, arrosés, etc. Donc là, on rentre plus dans un schéma professionnel, dans un schéma technique, à se demander, pour avoir de la courgette cet hiver, ma courgette, il faut que je la sème au mois d'avril, ou que je la sème en direct, ou je la fais en pépinière, mais il faut que je la plante, il faut que je l'arrose, il faut que je travaille mon sol, il faut que j'apporte l'amendement qui va bien au sol pour que la courge puisse se développer. Donc voilà, là on rentre dans un itinéraire technique qui je vous avoue honnêtement, je pensais pas que c'était aussi compliqué et que ça demandait autant de réflexion en amont. Voilà, la plus grosse difficulté technique, c'est de maintenir un planning de production. Parce qu'il y a tant de choses à faire sur chaque culture. On a l'impression qu'on y passerait des semaines et des semaines. Lorsqu'on lit le planning, en semaine 20, il y a ça à planter, en semaine 21, il y a ça à récolter, en semaine 23, il y a de la récolte et de la plantation à faire, en semaine 50 ou en semaine 40, il faut arracher pour pouvoir mettre en place d'autres. Ouf. On dit ouf. Oh. Faut travailler, les journées font 24 heures, il faut que je puisse me reposer. À quel moment c'est la plus grosse difficulté, elle est là, c'est maintenir un planning, maintenir un rythme de travail et tout en se préservant un temps personnel avec la famille, avec les enfants. C'est vraiment le côté du métier qui est à mon sens le plus dur à gérer.
Si les porteurs de projets peuvent mener une activité commerciale sans pour autant être chef d'exploitation, c'est grâce à Mature Entreprise. Cette couveuse d'entreprise suit ainsi plusieurs espaces tests agricoles dans la région sur le modèle des prés d'amont grâce à son conseiller spécialisé Joseph Bertoli.
Les personnes qui optent pour le maraîchage biologique bien souvent ne sont pas issues de ce domaine-là. Donc c'est une reconversion professionnelle. Donc ils savent que ça leur plaît, mais ils se posent la question, est-ce que je peux le transformer en activité professionnelle et en vivre? Donc ça permet avant tout de tester ce projet. Et donc se pose ensuite la problématique de l'immatriculation, tout simplement. Il y a aussi la problématique de l'installation. Quand ils sont dans un espace test, ils n'ont pas besoin de faire le gros investissement qui est l'achat de terrain, de matériel, de bâtiments, etc. Donc ça permet vraiment de tester leur activité dans tous les sens du terme. Au niveau commercial, au niveau production, ils ont également besoin parfois de soutien technique, tout simplement pour connaître toutes les techniques de culture, de programmation, tout ce qui fait, je dirais, la production maraîchère. Et en même temps, nous, la couveuse, on leur apporte le soutien. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui crée, qui s'immatricule, est seul face à son marché, face à ses problématiques. Là, il est soutenu, il est dans un réseau. Le conseiller, les formations sont là pour vraiment l'accompagner. Les autres organismes également, au niveau technique, les ADR, apportent un soutien technique. L'espace test, également un soutien, je dirais, technique, logistique, un appui local. Et puis encore une fois, nous, pour la partie formation et gestion de leur activité.
D'accord, donc il y a une partie commercialisation et les autres domaines, c'est quoi?
Eh bien, tous les domaines de la gestion de l'entreprise, comptabilité, gestion, communication, c'est très important. La plupart du temps, les gens ont une idée assez précise de leurs clients, mais ils ne savent pas du tout comment les contacter. Donc là, on leur apprend un petit peu tout ce qui peut exister dans les techniques de communication. Les réseaux sociaux, les réseaux Internet, qui ne sont toujours, pas toujours des outils, je dirais, accessibles immédiatement. Il faut un minimum d'apprentissage. Il y a également le soutien, tout simplement, c'est-à-dire de s'inscrire dans le temps, monter des opérations de communication dans le temps, et pas faire des choses ponctuelles. Voilà, donc après, il y a tous les aspects également, je dirais, stratégiques. Donc réflexion sur que sera, comment j'oriente mon projet pour que demain, il m'apporte la viabilité que je souhaite. Voilà, c'est pas de pas faire des choses au coup par coup. En particulier, la problématique sur les terres, c'est que lorsqu'ils sortent de couveuse, il va y avoir la problématique de l'installation et donc de trouver le terrain. Donc c'est quelque chose qu'on anticipe dès le début. Dès que les personnes rentrent en couveuse, on intègre tout de suite la chambre d'agriculture, éventuellement les ADA, pour prévoir la sortie donc 3 ans plus tard, au maximum 3 ans, et donc d'anticiper la recherche du terrain. Encore une fois, c'est difficile à trouver, c'est cher, enfin, il y a de l'investissement à faire, donc ça permet de l'anticiper, de le prendre en charge le plus vite possible.
La recherche de terres agricoles est aujourd'hui l'obstacle numéro 1 pour les candidats à l'installation. Urbanisation, domaine de chasse, agrandissement des exploitations, la question du foncier agricole est cruciale pour aborder les problèmes que connaissent nos territoires ruraux aujourd'hui. Nous y reviendrons sans doute dans de prochaines émissions. Appui technique, commercial, entrepreneurial et recherche de foncier, les espaces tests agricoles comme les prés d'amont sont un outil précieux pour permettre aux personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole de s'installer plus sereinement et de viabiliser leur exploitation. Après plusieurs pistes infructueuses, Harry est sur le point de s'installer à quelques kilomètres des prés d'amont, Sud-Loire, à la sortie de Blois, en direction de Tours. 4 années passées à se perfectionner, une commercialisation qui roule et surtout 7 hectares qui n'attendent plus que lui, on laisse le mot de la fin à notre futur exporteur de projet.
Normalement, sur l'espace test, on nous accueille pour 3 ans. Donc moi, je suis un peu tanguy, on va dire. J'ai fait une année de plus, je suis sur ma 4e année. Mais voilà, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il manquait le foncier. Voilà. Donc il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes à moi, qui n'ont pas été concrétisées. Et donc là, le lycée a accepté de m'accueillir une année de plus, puisque aujourd'hui avec l'aglo, donc j'ai repris contact avec l'aglo et l'aglo a fait le nécessaire pour me trouver du foncier. Donc parce que je voulais pas m'éloigner de Blois, parce que j'ai quand même développé pas mal une belle clientèle sur Blois, donc je voulais pas m'éloigner de ma clientèle. Et donc avec l'aglo et la chambre d'agriculture, on a recensé les terres qui étaient disponibles. Et puis donc là, si tout va bien, d'ici la mi-octobre, je vais pouvoir signer avec la mairie de Blois et me lancer enfin dans le, oh, pas dans le vide, mais dans le feu de mon métier.
Feuilles vives, c'est fini. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à l'espace test agricole des prés d'amont. Situé au sud de la Loire, proche des jardins de Cocagne, des terres maraîchères de la Vacquerie ou même des jardins familiaux du quartier Vienne, il participe de cette agriculture blaisoise périurbaine dont nous reparlerons sans doute prochainement. Ces dispositifs de formation et de soutien à la création d'entreprises agricoles permettent à des urbains, comme Harry, de se lancer dans un métier qui leur était sinon inaccessible. Des porteurs de projets venus d'autres horizons qui participent à renouveler les modes de production et de distribution. Dans le cas d'Harry, sa vente directe en entreprise permet de détourner une partie des consommateurs de modes de distribution néfastes pour les producteurs et ainsi d'amener le public à se rapprocher des agriculteurs de son territoire. Retrouvez podcasts et autres infos dans la rubrique Feuilles vives du site studiosf.fr. À bientôt.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers.